plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
Bonjour. Cette belle rencontre du 11 juin, je vous la propose avec une passion et une histoire languedocienne. Du Midi Rouge aux appellations Pic Saint-Loup, l'identité viticole est une, pour notre région une évidence. Pour nous en parler aujourd'hui, deux voix, celle d'une jeune femme viticultrice ou vigneronne, c'est elle qui va nous le dire, et celle d'un historien passionné par ce mouvement que Wikipédia nomme la révolte des vignerons, mais que lui préfère appeler le printemps des fédérés. Bonjour Rémi Castan.
Bonjour.
Marie, on va commencer par vous, je ne sais même plus si je vous ai dit bonjour du coup.
Non,
on ne s'est pas dit bonjour.
Donc,
bonjour Marie, je suis ravie de vous retrouver. On s'est vus à milieu de semaine pour préparer l'émission. Alors, honneur aux dames, hein. Vigneron ou viticultrice?
Mais je dirais vigneronne. Je vais parler en mon nom, mais aussi au nom de... C'est un domaine familial, donc au nom de nous quatre et de toute notre équipe. Donc nous sommes vignerons dans le sens où on travaille la vigne, on s'occupe de la vigne, mais on est en charge aussi de faire le vin, de vinifier, et ensuite de le commercialiser. Et c'est dans ce sens que nous sommes vignerons.
C'est pas clair pour le quidam moyen, la personne qui connaît pas, qui n'est pas du milieu, de faire la différence entre les deux.
Non, c'est pas clair parce qu'en plus, des fois, les significations peuvent varier selon les régions viticoles. En tout cas, chez nous, en fait, la frontière se fait entre si on fait la vinification ou pas. Mais c'est vrai que voilà, ça peut être un peu flou parce que les mots sont utilisés différemment selon les régions viticoles.
Être femme et en plus une jeune femme, c'est un problème? Ou vous êtes de plus en plus nombreuses d'ailleurs, je crois.
C'est pas un problème en tout cas pour moi. En tout cas, étant trois filles et la première génération de femmes au domaine, on a toujours fait pour que ça ne soit pas un problème. En effet, c'est un métier qui se féminise, mais qui finalement a toujours été féminin, mais pas toujours mis en avant. Les femmes travaillaient dans les vignes depuis très longtemps, mais on n'en parlait pas. Les domaines, souvent, c'est une histoire de couple aussi. Donc les femmes sont aussi travaillent au domaine également. Et du coup, nous, on est là, voilà, la dernière génération avec ma sœur. Et en effet, c'est un métier qui continue à se féminiser parce que qui est aussi présent en tant que chef de culture, à la cave, dans les métiers commerciaux aussi. Donc oui, c'est quelque chose qui évolue.
Alors là, on est dans le très beau domaine de Château de Lascaux ou Lascaux ?
Château de Lascaux.
De Lascaux. Alors vous nous racontiez que c'est un prieuré à la base ?
Oui.
Et aujourd'hui, vous pouvez nous faire l'historique un petit peu justement de ce lieu, donc milieu du 16e, hein, vous m'aviez dit.
C'est ça. Alors juste, je vais commencer pourquoi on s'appelle Château de Lascaux. Lascaux, c'est le nom d'une colline là, qui est à côté du domaine et qui veut dire Lascaux en occitan, en langue d'oc, c'est-à-dire Lascaux, la pierre calcaire, la roche calcaire. C'est la même étymologie que le mot cosse. Et donc nous, on a des sols calcaires et voilà. Donc c'est ce qui a donné le nom au domaine. Et oui, c'est un domaine familial assez ancien parce qu'on pense que nous sommes arrivés donc au milieu du 16e siècle. Mais là où la famille est arrivée, il y avait déjà quelque chose. Et c'était un ancien prieuré moyenâgeux où, qui dépendait donc d'une abbaye, certainement l'abbaye de Vignegoul à Pignan. Et voilà, la famille s'est établie. Au départ, bien sûr, c'était un domaine de polyculture. Il y avait de la vigne, mais pas seulement. C'était pas la même économie qu'actuellement. Et donc, on faisait un peu tous les métiers. Et il y avait notamment une forte présence de l'élevage de brebis, donc qui était important. Il y avait aussi la culture de la vigne. Il y a eu la culture de l'olivier. Il y avait pendant une petite période même l'élevage de verre à soie, parce qu'on est finalement pas si loin.
Pas très loin de Gorges et des Cévennes, bien sûr. Oui.
Donc avec la magnanerie. Donc voilà, et c'est un domaine qui s'est développé d'année en année, de génération en génération. Chaque génération a fait sa trace, et voilà, jusqu'à nous.
Alors aujourd'hui, c'est le château de Lascaux, c'est 15 personnes.
Oui.
Donc de la famille, combien alors vous êtes
Actuellement,
il y a Jean-Benoît.
Oui.
Voilà, j'ai compris, qui est le père.
Il y a ma maman aussi qui travaille au domaine depuis très longtemps aussi. Et puis donc ma sœur, Magelone et moi-même, nous sommes arrivés donc en 2019 et 2020. Et au total, donc, on est une quinzaine. Il faut savoir que, justement, quand on est vigneron, il y a plein de métiers derrière, plein de casquettes. Donc il y a le travail de la vigne, donc à pied ou en tracteur. Il y a le travail de la cave. Il y a la préparation, les mises en bouteille. Nous faisons nos propres mises en bouteille au domaine.
Tout ce qui est administratif aussi, je pense que ça doit avoir une grosse...
Il ne faut pas oublier, qui prend du temps. Et puis la partie commercialisation et aussi recevoir. Nous, on reçoit au domaine, donc voilà, il faut tout ce monde-là.
Parce que ça n'a pas l'air... Enfin, ça, c'est pas aussi simple que ça en paraît. Ce n'est pas seulement tailler les vignes. Voilà, il faut après la vente. Il y a tout un travail maintenant de visualisation.
Le travail de la vigne, il se fait tout au long de l'année. Donc il y a la taille, qui est l'hiver, il y a les pamprages, les bourgeonnages, le relevage, donc plein de métiers. Et après il y a la partie vendange que tout le monde connaît
bien. Oui, bien sûr.
Après là il y a un grand temps sur la partie vinification qui continue après les vendanges, qui est en même temps. Donc il y a une période aussi assez chargée. Et puis il y a aussi, c'est vrai, la partie commercialisation. Donc c'est présenter nos vins au public, c'est présenter nos vins aussi aux professionnels. Donc voilà, ça, toute l'année, il y a de quoi faire.
Vous avez fait des études, vous et votre sœur, pour arriver à là ou...
Oui, alors justement, on a des études assez complémentaires. Alors moi, je suis plutôt sur la partie commerce, donc j'ai fait une prépa à Montpellier, à Jean Monnet. Puis après, je suis partie sur la commercialisation des vins à Dijon. J'étais contente de aussi voir comment ça se passait dans d'autres régions viticoles.
Pas loin des hospices, alors. Oui. Dijon, hein, c'est pas voilà. Très loin de Beaune. Hein.
Voilà, et puis voilà, avec beaucoup de notions internationales du vin, parce qu'en France, c'est vrai que c'est un marché, ça va quelque chose d'important, mais il y a d'autres pays qui aussi font du vin. Et puis j'ai d'autres expériences avant de revenir au domaine. Et puis Maguelone, elle a fait plutôt une école d'ingénieur d'agriculture à Toulouse, et elle a continué sur un DNO, c'est le diplôme d'œnologue à Montpellier. Donc voilà, pour revenir après aussi au domaine. Donc finalement, on se complète bien.
Oui, voilà, il y en a une qui est plus commerciale et l'autre un peu plus terrain.
Parce que c'est vrai que d'aller voir les clients, en même temps, on ne peut pas être dans la vigne et la vigne n'attend pas. Donc ça nous permet de nous partager les tâches.
Marie, on entend aux infos tout le temps que les Français boivent de moins en moins de vin. Je ne sais plus les derniers chiffres, c'était 30% depuis 10 ans. Enfin, et quand j'avais rencontré le responsable de la Gravette à Corconne, hein, qui est voisin, parce que bon, ici nous sommes à Vaquières, hein, on ne l'a pas dit, voilà. Nous sommes à Vaquières, qui était une corne de l'Hérault, hein, voilà, c'est le dernier
village de l'Hérault.
Voilà, avant le Gard. Olivier Masson me disait qu'il n'y avait pas tellement de problèmes avec le Pic Saint-Loup, au contraire, que le Pic Saint-Loup, l'appellation Pic Saint-Loup, hein, avait du mal à fournir. Vous confirmez ce qu'il m'avait dit?
Oui, c'est une appellation très dynamique. En fait, depuis 30 ans, des vignerons ont travaillé beaucoup. D'abord le vignoble, notamment avec en plantant pas mal de Syrah, et en améliorant déjà vraiment le travail du vignoble. Pour continuer sur un travail d'amélioration de la qualité, il faut savoir que les gens boivent peut-être un peu moins, mais ils boivent beaucoup mieux. Donc c'est un changement de consommation. Et donc il y a eu un gros travail sur le vignoble à la cave. Et on a la chance aussi d'avoir un climat, une spécificité à l'appellation qui nous fait qu'on a des vins assez élégants et frais. Dans le Pic Saint-Loup, on a un climat méditerranéen, mais avec les influences continentales des Cévennes. D'ailleurs, on voit juste à côté du domaine les premiers contreforts des Cévennes.
C'est vraiment le piémont cévenol.
Exactement. Et en fait, ça se traduit déjà par une pluviométrie un peu plus importante. On est autour de 900 mm par an. Pour comparer, à Montpellier, qui n'est pas si loin, on est à 600 mm. Donc c'est intéressant. Et surtout, on a des écarts de température journée très marqués. En particulier sur le mois d'août, septembre, octobre, on peut avoir facilement 20, voire un peu plus de 20-25 degrés d'écart entre le jour et la nuit. Donc du coup, on a une maturité des raisins qui est un peu plus lente. Souvent, on est d'ailleurs les derniers du Languedoc à commencer à vendanger. Parce que voilà, il y a un petit écart. Les premiers bourgeons arrivent un peu plus tard que si vous allez à Béziers ou un peu plus au sud. Parce qu'on a ces écarts de température. Et du coup, on retrouve cette fraîcheur, ce côté aussi mentholé, équilibré, dans les vins qui sont appréciés dans les vins du Pic Saint-Loup.
Peut-être parler donc du château de Lascaux pour les auditeurs qui auraient envie de le visiter. Donc c'est ouvert de quand à quand, quel jour?
Alors pour d'abord vous situer, donc nous sommes à Vaquières.
En plein cœur de village, hein.
Voilà,
vous ne pouvez pas vous rater.
Au centre du village. donc au nord de Montpellier. Et donc le domaine est en effet ouvert du lundi au samedi, de 10h à midi et de 14h à 19h l'été et 18h l'hiver. Et donc en effet, on propose des dégustations, mais aussi des visites plus complètes, si vous voulez, d'une heure et quart, une heure et demie, où on présente notre travail. C'est voilà, c'est un peu, on présente la cave, on présente l'appellation, et voilà, c'est un peu plus long.
Et puis bien sûr, pour ceux qui peuvent pas venir, vous avez un site.
Oui, sur château-lasco.com, vous avez toutes les informations sur le domaine, les vins et aussi où on est situé.
Ben merci beaucoup Marie Cavalier, merci déjà de nous accueillir aujourd'hui, puisque l'émission est diffusée le 11, mais aujourd'hui on est le 25, voilà, le 25, et ce soir vous organisez donc un événement, hein, c'est quelque chose que vous aimez faire aussi.
En fait c'est un autre vigneron qui nous a fait le lien, Gilles, et quand on nous a proposé, on était ravis de présenter, de recevoir plutôt... avec Rémi pour cette conférence, donc on est très contents.
Eh bien, on va marquer une courte pause musicale. En plus, Rémi nous en parlera. Donc, j'ai noté, c'était La gloire au 17e et c'est Marc Augeret qui la chante. Et on se retrouve juste après avec Rémi Castan.
Légitime était votre colère, le refus était un grand devoir. On ne doit pas tuer ses pères et mères pour les grands qui sont au pouvoir. Soldats, votre conscience est nette, on ne se tue pas entre Français. Refusant de rougir vos baïonnettes, petits soldats, oui, vous avez bien fait. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, brave piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Comme les autres, vous aimez la France, j'en suis sûr. Même vous l'aimez bien, mais sous votre pantalon carence, vous êtes restés des citoyens. La patrie, c'est d'abord sa mère, celle qui vous a donné le sein. Et vaut mieux même aller aux galères que d'accepter d'être son assassin. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, brave piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Espérons qu'un jour viendra en France où la paix, la concorde règnera. Ayons tous au cœur cette espérance que bientôt ce grand jour viendra. Vous avez jeté la première graine dans le sillon de l'humanité. La récolte sera prochaine et ce jour-là vous serez tous fêtés. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, braves piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République.
Et on se retrouve après cette chanson interprétée donc par Marc Augeret. Vous n'êtes pas emballé par cette version du Gloire au 17e, Rémi Castan?
Oui, parce qu'elle raconte n'importe quoi.
Ah ben, il faut nous dire quoi alors? Ça ne suffit pas.
Disons que Montéus, qui a écrit la chanson, l'a écrit de Paris, 3 ou 4 ans après les événements. et à raconter des bêtises parce qu'il parle des mutins du 17e en disant que s'ils avaient tiré sur nous, ils auraient assassiné la République. Il n'a jamais été question de tirer sur la foule. Au contraire, les mutins se sont mutinés pour aller sauver et défendre leur famille pour empêcher que des soldats puissent leur tirer dessus. Donc on est dans une autre approche.
Parce que je l'ai écouté, la chanson, c'est vraiment ça qu'elle dit. C'est exactement, voilà, oui, tout à fait.
Alors, en plus, il faut savoir que c'est la chanson qui était la chanson préférée des meetings du Parti communiste jusque dans les années 2000, parce que c'était une chanson populaire du midi. Et donc, dans la légende, on dit que la chanson, c'était une chanson préférée de Staline, et que le clairon du 17e qui accompagnait Marcelin Albert, pas du 17e, du comité d'Argeliès qui accompagne le comité, a été offert à Staline avant la Deuxième Guerre mondiale.
Rémi, quand j'ai préparé mon petit chapeau, donc dedans j'ai dit du midi rouge aux appellations. Il m'a dit, non, Nathalie, là, midi rouge, non, c'est pas ça le midi rouge.
Le midi rouge n'était pas encore appelé midi rouge. Et on n'est pas dans cette... il faut attendre l'arrivée du Parti communiste et le vote communiste pour qu'on parle de rouge. Alors, ça a même fait une petite problématique avec Rémi Pêche qui me disait que c'était une erreur parce que j'avais sorti le midi rouge ou l'alerte rouge et il m'a dit non, mais c'est pas de 1907 ici. Mais c'était pas dans, ça n'avait pas le même sens qu'on avait à l'époque. Donc c'est pour ça que je n'emploie pas ce terme-là.
Rémi, vous, pour vous présenter un peu quand même, savoir qui vous êtes et pourquoi vous avez envie de parler de cette période. Donc vous êtes auteur, vous êtes éditeur, vous êtes scénographe, vous êtes commissaire d'exposition. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette période ?
La production, cette période.
Oui, enfin 1907 et à ces événements surtout.
Alors 1907, c'est quand je suis adolescent. Je vais voir un concert à Béziers de Paco Ibanez avec en première partie Claude Martin. Et je découvre la révolte des vignerons, je découvre 1907, je découvre plein de choses et ça a éveillé en moi un sentiment profond d'intérêt. Et je me suis toujours intéressé à cette histoire dont on ne parlait pas, qu'on ne connaissait pas. Et puis voilà, c'est parti de là. En 2007, j'étais producteur de disques. Et on a arrêté de produire des disques parce que les gens ont découvert la gravure et nous, on n'arrivait plus à s'autofinancer. Et les musiciens avec qui je travaillais, il y avait un projet de département de faire un orchestre de pays. Et moi, j'avais prévu de faire un disque sur les chansons de 1907. C'est comme ça que c'est créé. Donc j'aurais passé les chansons pour l'orchestre de pays. L'orchestre de pays, c'était un orchestre qui regroupait 5 chorales, c'est-à-dire déjà une centaine de choristes. Et 3 harmonistes qui fait autant de musiciens. Il y avait déjà 200 personnes sur scène. Donc ça faisait énormément de monde et ce spectacle a duré 3 ans. C'est-à-dire qu'il était encadré par des professionnels qui, chaque chapitre, pupitre. Et donc c'était un truc très intéressant. Et moi je leur ai proposé, parce que je commençais à participer, j'étais un peu invité au départ à la table, alors que ce n'était pas prévu. Et je leur ai dit, mais moi je peux vous proposer autre chose. Je peux vous proposer une exposition adaptée aux événements, aux spectacles. C'est-à-dire que je me propose une exposition à partir des dessins de 1907 faits par les artistes, c'est-à-dire l'expression populaire, et illustrés par des extraits de chansons. Ce qui a été fait, dont l'exposition a été tirée à ce moment-là en 2 exemplaires, puis on a dû les tirer en 4 exemplaires de plus pour pouvoir répondre aux demandes de gens qui voulaient découvrir les événements. Et c'était les événements racontés à partir d'images d'époque, et illustré par des extraits de chansons, c'est-à-dire les poupées, ça doit être très concis et concis pour pouvoir permettre aux gens de comprendre ce qui se passe.
C'est là l'importance de votre image scénographe, parce que là, voilà, il y a vraiment une scénographie à inventer.
C'était ma première grosse expo, et après, je n'ai pas arrêté de faire des expos en me spécialisant dans l'expression populaire et dans les pionniers de la bande dessinée.
Rémi Caston, pour moi qui suis une fille du Nord, les révoltes de 1907, c'était dramatique. Il y avait une espèce de... C'était pas la commune, mais c'était pas loin d'être ça. Hein, voilà. Et quand on en a parlé, quand on s'est rencontrés l'autre jour, quand on s'est présentés les uns aux autres, vous nous en avez parlé, Marie était là, d'une façon extrêmement différente, plutôt festive, de réunion de gens qui se mettaient en bel habit du dimanche. Vous pouvez nous en parler de cette façon-là, des événements de 1907 ?
Il y a deux approches. Il y a l'approche qu'on a régulièrement de pleureuse. C'est ce que moi j'appelle.
Vous me traitez de pleureuse, quoi, Rémi Castan.
Non, c'est la
pleureuse nordiste, le terrible, avec son bel accent.
C'est la manière dont beaucoup de gens ont présenté cet événement. Or, cet événement fait partie du roman régional occitan et catalan, au même titre que la croisade des Albigeois, au même titre que les Camisards. La révolte fait partie de ça. Mais la révolte, il y a deux façons de la voir. Soit on dit, c'est un moment où tout va mal, mais c'est pas prendre en compte la réalité. C'est-à-dire, ça fait 7 ans que la crise dure. Et quand arrivent les événements du printemps, c'est un moment d'espoir. Donc on peut le regarder en disant, ils vont très mal, ils ont plein de vin, on ne peut pas s'appuyer du pain. C'est vrai.
Ça, c'est pleureuse.
Oui, c'est le côté pleureuse. Mais alors que l'événement, c'est un moment où, à partir d'un appel de 12 personnes d'un petit village, ils vont décider de mobiliser les gens sur le schéma, pas de politique, mort aux fraudeurs. Il faut arrêter toute la fraude, c'est insupportable.
On va y revenir d'ailleurs, parce que pour beaucoup de gens du coin, ces événements-là, c'est 800 000 personnes. Alors certains disent 600 000, vous êtes plutôt à 800 000 voix. Alors, personnes à Montpellier, voilà. Mais ce n'est pas là où tout a commencé. C'est dans les PO, vous m'avez dit.
Oui, mais avant de dire ça, j'ai
juste
précisé pourquoi les 800 000. 800 000 personnes, c'est le chiffre, quand les gens disent 600 000, c'est le chiffre du prévisionnel qu'il y avait 15 jours avant. C'est-à-dire que les gens qui organisaient les meetings, chaque fois, faisaient un meeting toutes les semaines, et à la fin, il y avait une réunion générale de tous les délégués de comité. Et chacun annonçait combien ils allaient venir de personnes. 15 jours avant, on savait qu'il y aurait 600 000 personnes à Montpellier. Or, comme c'était le jour de l'ultimatum posé au gouvernement pour trouver des solutions, il y a plein de gens qui sont venus. Il y a eu des délégations qui sont venues de Charente, il y a des gens qui sont venus de Provence, d'Italie, il y a eu plein de gens en plus. C'est-à-dire que les 600 000 ont été vite dépassés à 800 000. Or, la presse de Clémenceau, c'est-à-dire l'Aurore, et les gens d'Argelès disent tous les deux 800 000. Donc je dis que c'est 800 000 et pas 600 000. Parce que le chiffre, c'est ce qu'il y avait dans la presse circulée 15 jours avant. Or, on a été tellement dépassés qu'il a fallu ouvrir les églises pour héberger les gens. Alors que l'organisation était très très bien organisée, qu'on prévoyait l'hébergement, qu'on prévoyait les déplacements, les lieux de stationnement. Donc c'était un moment où tous les gens venaient pour, dans l'espoir de sauver leur viticulture, sauver le Midi avec toutes ses valeurs. Donc on est dans une approche totalement différente de celle qu'on voit d'habitude.
C'est des images d'Épinal aussi, hein. Voilà, ça fait partie du...
C'est facile de dire qu'ils sont dans le malheur plutôt que de regarder tout le côté positif de ces événements.
Alors les PO, pourquoi ça naît dans les PO?
Alors, ça naît dans les PO...
Dans un petit village, hein.
Dans un petit village qui s'appelle Bachas, et qu'on écrit Béchas, B-A-I-X-A-S.
À la catalane.
À la catalane. Si, quand tu vas là-bas, si tu leur dis...
Qu'est-ce que c'est?
Ben, Béchas ou Béchas, ils te regardent... Non. Ça ferme les portes entre nous. Mais bon, quand je suis arrivé là-bas, j'ai appris. Alors moi, je croyais aussi que tout avait commencé avec Argelès, qui allait voir la commission d'enquête, etc. Bon. Et non, ça a commencé en janvier, où ce village était dans la panade. C'est-à-dire qu'ils ont reçu sur un village de 1400, 1200 habitants, je ne sais plus de tête, ils ont reçu plus de 400 lettres d'huissier qui venaient saisir, parce qu'ils ne pouvaient pas payer l'impôt, parce qu'ils ne pouvaient pas. Et donc, il y a une lettre qui va partir signée par 800 personnes sur un village de 1200 habitants qui va être envoyée à la fois à Clémenceau et à Caillou en disant que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est qu'ils ne peuvent plus payer l'impôt. En disant qu'ils ont plein de bons vins dans les caves, qu'elles sont pleines, mais qu'ils ne veulent pas acheter de pain parce que la fraude, la surproduction, tout un tas de critères fait qu'on ne peut plus manger avec sa production. Or, tout le Midi viticole fonctionne au rythme du vin. Dans les traditions, quand on recevait quelqu'un d'important, on le faisait passer sous l'étreille. On le recevait en dansant l'étreille et en faisant une espèce de défilé à l'ombre d'étreille. C'était à la fois une manière de le protéger et une manière de revendiquer ce qui était notre source de financement et notre source de notre fierté. Donc, On raconte que dans les années 30, quand le président de la République vient, il va monter de la gare jusqu'à la mairie, c'est assez long, ça. Et ils se sont débrouillés pour déplacer les traits de façon qu'ils soient toujours sous les traits tout le long du trajet. Donc c'est pour montrer l'importance du vin et toutes ces traditions populaires.
Rémi, vous nous parlez notamment dans cette lettre des 800... les 800 personnes qui ont écrit cette lettre parlent de la fraude, parlent du fait qu'ils n'en vivent pas des difficultés.
Ils parlent de leurs difficultés.
C'est quoi donc l'origine vraiment de la révolte? On en a parlé un petit peu, mais vous avez évoqué la fraude tout à l'heure. Je vous ai dit, on en reparle en deuxième partie d'émission ou un peu
Disons
plus tard.
Disons qu'il y a, c'est pas une cause, c'est une multitude de causes.
Alors lesquelles?
Déjà, la première problématique. Ce qu'ils appellent la fraude, une des fraudes, c'est le vin naturel et le vin artificiel.
Sa Marie, elle connaît aussi. Hein.
Le problème, c'est que quand il y a le phylloxéra, dans les années 1870, on a besoin du vin parce que le vin, c'est à la fois l'aliment et l'outil énergétique qui permet à tous les travailleurs d'avancer et de travailler. Donc, on a besoin de ça. Et comme il y a le phylloxéra, on n'a plus de production. Et on se met avec de l'eau, de l'acide sulfurique, tout un tas de petits produits qu'il faut aller faire.
C'est un truc chimique, quoi.
C'est de la chimie. Il y avait même du vin dans lequel il n'y avait même pas de raisin. Ça avait la couleur, et ça décapait l'estomac sans problème, etc. Donc c'était le vin artificiel qui a été fabriqué avec les betteraves sucrières. Quand on résout le problème du phylloxéra avec le plan américain qui est produit, les viticulteurs s'attendaient à ce qu'on arrête. Les négociants se disent que c'est très pratique, ça vaut moins cher d'acheter du vin chimique que d'aller acheter du vin aux viticulteurs. Et donc toute la problématique vient de là. C'était la première problématique. Comme on plante du plan américain, on se met à se produire. C'est-à-dire qu'une souche sur laquelle on ramassait un seau ou difficilement au moment des vendanges, avec le plat américain, on passe à 3 seaux dont on se met à surproduire. On surproduit, le marché est désorganisé, donc c'est aussi de la mévente. Il y a tout un certain nombre de critères qui font qu'on ne vend plus.
Vous évoquez le vin d'Algérie aussi.
Alors le vin d'Algérie, c'est particulier parce qu'à cette époque-là, l'Algérie est un département français. Et le vignoble algérien a été créé par des viticulteurs à la fois régionaux et alsaciens, qui, force de phylloxéra, sont venus et ont créé leur vignoble pour compenser en Algérie, où il n'y avait pas de phylloxéra. Donc ce sont aussi des viticulteurs français. Il y avait aussi le vin espagnol, l'italien, mais il y a tout ça qui s'accumule. Et après, les négociants, comme il n'y a pas de marché, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de unité, ils font leur loi comme ils veulent. Ils sont un peu archaïques, ils payent très mal et... Il y a une désorganisation totale.
C'est amusant, enfin c'est amusant, c'est pas tellement amusant, mais quand vous en parlez, ça résonne quand même sur la dernière crise des agriculteurs. Hein. Il y a beaucoup de choses quand même qui parlent.
À une certaine époque.
Oui. Ouais. Il y a un siècle, plus d'un siècle entre les deux, mais il y a des choses qui
continuent. Oui.
Qui continuent. Rémi, il y a aussi une chose, évidemment les causes c'est important, mais ce que j'ai compris, ce que vous m'avez fait comprendre, c'est que ce n'était pas que les vignerons et les viticulteurs, mais que toute une société, que toutes les strates de la société étaient concernées par cette révolte. Vous pouvez nous en dire plus?
Notre région fonctionnait sur une monoculture, donc sur le vin. Donc s'il n'y avait pas le vin, le boulanger, si les vignerons ou les travailleurs, les journaliers, etc., n'étaient pas payés, ils ne pouvaient pas acheter de pain. Le coiffeur ne vendait pas de coiffure. C'est-à-dire que tout le monde était lié directement ou indirectement à la production viticole. Donc, si le vin était en crise, toute la région était en crise. Donc, tout le monde était solidaire pour que la région sorte de la problématique et qu'on arrive à trouver des solutions.
Ça, c'est important de le rappeler parce que c'est vrai que ce n'est pas seulement la révolte des vignerons et des viticulteurs. C'est la révolte, c'est la fédération. C'est là où l'idée de fédération est belle chez vous.
Alors, j'appelle pas ça la révolte parce que dans le mot révolte, il n'y a que le côté négatif. Or, c'est plutôt un moment où les gens vont se réunir pour essayer de trouver des solutions. On a essayé avant, mais ça ne marchait pas. Et à un moment, la crise des murs, c'est un peu comme un bouton. qui est prêt à être mûr, qui est prêt à répondre aux demandes. Et d'un seul coup, tous les gens vont se dire, ça va partir d'un petit village qui s'appelle Argeliès.
Qui est où c'est Argeliès?
Qui est à la limite de l'Hérault, et entre l'Hérault et Narbonne.
D'accord.
Voilà, entre Capestin et Narbonne, en gros.
D'accord.
Si on devait délimiter. Et ce petit village, suite à la lettre donc, que vont faire Jean de Bachas, ça va provoquer une commission d'enquête qui va faire le tour des régions viticoles pour comprendre ce qui se passe. Mais chercher à le comprendre, en venant dans des villes, dans les grandes villes, elle ne rencontrera que les élus. Et les gens d'Argeliès se débrouillent pour aller, et pour eux, aller leur dire ce qui se passe. Et au départ, c'est un groupe composé de petits propriétaires, de journaliers, qui décident à pied, alors ils vont faire 20 km pour aller rencontrer, ils vont les accueillir tambour et clairon, à la sortie de la gare, et ils vont aller les voir, et trois auront l'autorisation d'aller les voir. En même temps, ils vont donner à cette fameuse commission une pétition qu'ils avaient faite à l'époque, en 1905, quand le projet n'a pas abouti.
Alors, vous nous emmenez à Argeliès, Rémi Castan. Donc, quand on parle d'Argeliès, on ne peut pas ne pas parler de Marcelin Albert. Alors, on m'avait dit, bon, voilà, Marcelin, moi, il ne m'emballe pas plus que ça. Mais peut-être nous en dire un petit peu plus.
Ce n'est pas qu'il ne m'emballe pas plus que ça, c'est que Marcelin fait partie d'un groupe qu'on a appelé le Comité des Pinces Viticoles, qui était un acteur de théâtre, qui était quelqu'un qui n'avait pas peur de parler, qui était un peu une grande gueule. Donc, qu'on a mis en avant comme une figure de proue. Qui était aussi qui jouait beaucoup de théâtre et qui s'est pris dans son rôle. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un travail collectif. Pour la communication, dans la revue qui s'appelle Le Tocsin créé par Jean d'Argeliès, on le compare à un prophète, à un rédempteur, et il va se croire rédempteur. C'est-à-dire à un moment, il ne va plus prendre en considération les autres et il va un peu péter les pommes. Mais on peut le comprendre. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que Marcelin se battait pour la défense du vin. En 1905, ça ne marche pas. À un moment, il y a une réunion pour voir si les maires vont se démissionner, etc. On refuse son entrée. Et lui, qu'est-ce qu'il décide? C'est d'aller sur l'allée des barques à Narbonne. Il monte sur un platane et il fait de la propagande pour défendre ses idées en haut d'un platane. D'où le surnom du cigale.
D'accord.
Qui signifie à la fois le cigale, la cigale, mais le fada aussi. Il y a les deux significations. Et donc, avec les événements qui vont se passer au printemps 1907, il va passer de 8 personnes qui l'écoutent à 800 000 personnes à Montpellier.
Donc il va se faire le melon.
Oui, mais il va avoir le melon des mimes. C'est-à-dire qu'il raconte les comités d'Argeliès, parce que j'ai trouvé des documents autres, explique que quand il rentrait de Nîmes, parce qu'ils y allaient en voiture, ils l'ont mis sur place, le lendemain quand il rentre, il leur fait le discours tout le long du trajet, et le docteur Santi, qui était un des membres, le pique pour le calmer, pour donner à peu près le temps. Et après, il y a un autre problème, c'est que Marcelin, dans une interview à l'époque, et qui était censé défendre les idées du comité, n'était pas obligatoirement, disait le contraire à l'interview. Donc, les problématiques de Marcelin. Et après, pourquoi Marcelin est devenu une figure de proue, c'est que les autres n'ont pas obligatoirement publié les événements, mais que lui a fait plus de quatre mémoires différentes. C'est-à-dire, cherchant à se redorer l'image. Et après, il y a aussi la fameuse rencontre de Clemenceau, il y a pas mal de choses dont je ne peux pas parler.
Ben, vous en parlerez dans la conférence qui va suivre, par contre, que vous allez faire dans ce très beau château de Lascaux, dans cette belle salle de réunion. Rémi, 100 ans après, plus de 100 ans après, 110 ans après, presque 110 ans après, c'est quoi le bilan de ce printemps des fédérés, de cette année 1907 pour la viticulture ici?
C'est plein de choses. La première chose, c'est l'organisation de la diffusion et de la vente du vin. C'est la CGV. Qui est une organisation qui a été mise en place, qui a permis d'avoir un cours du vin, qui a permis d'avoir des choses comme ça. C'est l'arrêt d'une certaine fraude. C'est-à-dire qu'à l'époque, on rentrait le raisin, mais on ne déclarait pas les récoltes.
C'est la création de la déclaration de récolte.
Donc, création de la déclaration de récolte. C'est aussi la création de la répression des fraudes. C'est à partir de là qu'a été les AOP, les origines contrôlées. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus vendre du vin s'il n'y avait pas de raisin. Et du raisin frais et naturel. Oui, c'est toute une série de décisions que demandaient les viticulteurs. C'est-à-dire, ils ne demandaient pas obligatoirement de l'argent. Ils demandaient qu'on respecte, que n'importe qui ne puisse pas vendre du produit chimique en disant que c'est du vin. Et c'est tout ce genre de choses, c'est toutes ces décisions qui viennent de ces événements de 1907.
Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt positif, les effets de... Elles seraient peut-être venues quand même, ces normes, mais bon...
Non.
Non.
Non, parce que ça faisait 6-7 ans qu'ils voulaient arriver à ça. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs combats pour y arriver. On n'y arrivait pas. Alors, ce qui est rigolo, c'est de penser que le gouvernement Clemenceau, qui était au pouvoir, a laissé faire, quand même soutenu les événements indirectement. Pourquoi ? C'était pour pouvoir faire tomber les lubies du nord et de certaines zones viticoles qui ne voulaient pas qu'on mette ces normes en place. Donc il y a un double jeu de jusqu'au 10 juin du gouvernement qui à la fois faisait la sourde oreille et aidait. Par exemple, c'est le gouvernement qui a aidé à ce que les billets soient moins chers. C'est-à-dire qu'il a fallu négocier, comme il y a tellement de monde, ils ont négocié les billets de train. Ils ont obtenu en premier temps les billets pour les excursions, qui étaient déjà en prix. Et le prix le moins cher, c'était le prix des pèlerinages. Et ils ont obtenu que les billets soient payés au prix des pèlerinages.
On va bientôt se quitter. J'aimerais quand même poser une question à Marie, qui a ouvert cet entretien. Marie, est-ce que toute cette histoire-là, on a dit que le château de Lascaux, c'était un prieuré au XVIe siècle, que l'histoire du vin, elle est forte, très très forte dans votre famille. Est-ce que 1907, c'est quelque chose dont, enfant, vous avez entendu parler ou non ?
Oui, j'en avais entendu parler. Et justement, j'en avais entendu parler dans le même sens que Rémi le présente, dans le sens événement exceptionnel de rassemblement, de mobilisation. Justement, on a vu quelques écrits en disant « tout le village y est allé ». Donc c'est ce côté assez exceptionnel et de mobilisation qui est resté finalement en famille.
Rémi, on va vous laisser le mot de la fin.
Je voudrais juste préciser une chose.
Bien sûr.
J'appelle ça le printemps des fédérés parce que à la fin de chaque meeting, Marcelin s'était inspiré du serment du jeu de pommes, prêtait un serment où tous les participants juraient de se fédérer pour lutter contre la forêt. D'où le nom de printemps des fédérés.
Eh bien, je mettrai toutes les coordonnées et du château de Lascaux et celles que vous voudrez bien me donner, Rémi, parce qu'il y a peut-être des gens qui seront intéressés par vos conférences et qui nous écoutent aujourd'hui. Et puis, quand je vous ai dit, Rémi, dites-moi une chanson pour finir. Vous m'avez parlé d'Aristide Bruand.
Oui. Alors, comme l'événement de 1907 est devenu un des événements les plus importants à la fois national et au niveau européen. Et Bruand, qui est dans son cabaret, très pragmatique, a repris l'air de la vigne au vin. Et c'est devenu de ville en ville qui racontait les différents meetings où les gens se réunissaient pour aller de meeting en meeting.
Là, vous m'avez promis le son, donc on l'attend pour le montage et on laisse cette chanson à la découverte de nos auditeurs. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Marie-Thérèse. Merci beaucoup, Rémi Castan. Et puis, belle conférence qui va suivre.
Merci.
Au revoir.
Pour les grands qui sont au pouvoir. Soldats, votre conscience est nette, on ne se tue pas entre Français. Refusant de rougir vos baïonnettes, petits soldats, oui, vous avez bien fait. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, braves piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Comme les autres, vous aimez la France, j'en suis sûr, même vous l'aimez bien. Mais sous votre pantalon carence, vous êtes resté des citoyens.